Le silence total, le silence infini. Voilà la réalité de l'univers où le son, à défaut d'air pour le transporter, ne voyage pas à la vitesse de la lumière comme dans les films ou les rêves de science-fiction. Dans l'espace, il n'y a donc que du vide. Le vide intersidéral. Mais depuis toujours, la musique est là pour combler ce vide. Des musiciens en provenance de toutes les galaxies musicales ont inventé des sons, composé des partitions et écrit des chansons pour offrir une bande-son fantasmée à ce cosmos désespérément silencieux. Au XXe siècle, en parallèle à la conquête spatiale, c'est une autre conquête qui s'est donc jouée en musique. Car pour beaucoup de musiciens, c'était avant tout un jeu. Mais pour d'autres, c'était aussi un enjeu politique et métaphorique. Aller dans l'espace, même à travers sa musique, c'était un moyen d'échapper aux pesanteurs d'une réalité terrestre parfois terrible. Space rock, jazz cosmique, afrofuturisme, space disco ou cosmische musique, quel que soit le moyen pour accéder aux étoiles, quel que soit le message envoyé depuis là-haut, ce fut une belle aventure, riche et mouvementée. L'Odyssée de l'espace en musique.
Elle est faite pour te faire décoller.
Je ne sais pas ce que c'est la musique du cosmos.
L'espace influence les musiciens, mais l'espace est le seul endroit où on ne peut pas faire de musique.
Il y a les notes et il y a l'espace entre l'espace.
Le rêve de la musique électronique, c'est le rêve de l'espace.
C'est pas on a marché sur la Lune, mais on va vers la Lune. Et c'est, ce qui est important, c'est ça. On n'a même pas envie de savoir s'ils y sont arrivés, mais c'est juste ce voyage-là qui compte.
Space is the other.
L'espace, c'est l'autre, celui qu'on ne connaît pas. C'est toujours très utile en musique, pour dire quelque chose de spécial, pour s'exprimer soi-même.
L'espace, c'est un peu le lieu idéal pour tout créer.
On the moon, there's no sound that can be heard.
On pourrait croire que tout a commencé au XXe siècle, que les rapprochements entre la musique et le cosmos ont été inspirés par la conquête spatiale, ce grand rêve des hommes bientôt devenu réalité. Pourtant, bien avant que l'on ne songe à se propulser dans l'espace, la musique était déjà au centre des théories, comme des croyances.
Pourquoi est-ce que l'espace est une source de fascination pour les musiciens? Je pense que ça remonte à extrêmement loin, en fait, et même si on va chercher du côté des musiques chamaniques, des musiques soufis. Je pense par exemple aux fameuses danses des derviches tourneurs qui symbolisent les étoiles qui tournent autour du soleil, les planètes. Il y a quelque chose de divin, évidemment, là-dedans, de surnaturel. On sait très bien que l'artiste, évidemment, cherche à se dépasser, que la musique est sans doute l'un des vecteurs principaux de ce dépassement.
Plus de 400 ans avant Jésus-Christ, 2369 ans avant Neil Armstrong, le mathématicien et astronome Pythagore avait déjà une idée sur la question.
Déjà chez les pythagoriens, il y avait une musique des sphères, c'est-à-dire que chaque distance entre les planètes correspondait à un intervalle de notes. Alors l'univers très simple, l'univers géocentriste avec la Terre au milieu, les planètes autour.
Pour le physicien allemand Johannes Kepler, dans les années 1600, il sera même question d'un cœur céleste formé par les planètes. Chacune d'entre elles possédant une tessiture particulière, l'ensemble créant un accord parfait, lié à Dieu. l'harmonices mundi, l'harmonie du monde.
Est-ce que derrière, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de recherche fantasmatique du son, quel a été le son du Big Bang, quelque chose comme ça? On ne sait pas, on ne le saura jamais, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de très mystique en fait.
L'œuvre musicale qui nomme enfin les choses par leur nom, en l'occurrence les planètes du système solaire, et leur accorde à chacune une partition, est celle de l'anglais Gustav Holst. Et elle inaugure le siècle de toutes les odyssées, mais aussi celui de tous les tumultes.
En fait, Holst, avec les planètes, il écrit la première bande-son de la guerre des mondes, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette idée de transposer la guerre qui a lieu sur Terre, une sorte de guerre cosmique et avec une dimension métaphysique.
La conquête spatiale, tout au long du XXe siècle, sera un grand concours de mise en orbite auquel se livreront à distance les Russes et les Américains. Mais pour la musique, avant que l'on ne songe sérieusement à envoyer des hommes dans l'espace, c'est un Russe qui marque le premier point, en inventant la plus étonnante des machines à faire voyager l'imaginaire. Son nom ? Lev Sergeyevitch Termen, l'ingénieur qui, dans les années 1920, met au point le Térémin.
Une chose qui est incroyable chez le Theremin, c'est le fait qu'il peut voyager entre les notes. Alors, le glissando d'une façon ou d'une autre met à la fois le musicien, à la fois l'auditeur, dans un monde inconnu.
Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
Avec ces sons qui semblent venus d'ailleurs, le Térémin est le premier des instruments utilisés au cinéma pour imiter les bruits des envahisseurs.
Et nous voilà dans le space rock.
C'est aussi lui, ou l'un de ses dérivés, que l'on ressortira des vitrines lorsque la pop se sentira agitée de vibrations cosmiques, les mauvaises comme les bonnes. Mais si certains musiciens se contenteront d'observer l'espace à distance, de lui inventer des sons qui ne seront que des projections imaginaires, globalement fantaisistes, certains iront beaucoup plus loin. Jusqu'à prétendre carrément débarquer d'une autre planète. Le plus célèbre d'entre eux s'est même donné le nom de l'astre suprême, le Soleil. Et il va irradier bien au-delà de son système sonore d'origine, le jazz.
Il est né Hermann Sonny Blount et à un moment il a changé de nom. Il a dit qu'il s'appelait Sonra. Et c'est effectivement devenu son vrai nom. Et il l'a fait après avoir eu une révélation cosmique, ce que les Américains appellent une rapture, c'est-à-dire qu'il aurait été comme s'il avait été enlevé en fait, par des extraterrestres. Donc il a une vision et à partir de là, il se met à endosser les habits et le discours de quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, de quelqu'un qui viendrait, comme il le dit, de Saturne. Sonra, c'est un des derniers, peut-être même le dernier, à mener un grand orchestre de la fin des années 50 jusqu'à sa mort dans les années, au début des années 90. C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de genres dans le jazz. Du jazz plutôt classique à ses débuts, du jazz un peu plus libre, free. Un peu plus expérimental aussi, même jusqu'à un jazz beaucoup plus électronique, puisqu'il a été un des premiers à essayer, par exemple, les synthétiseurs Moog.
Cela crée un espace cosmique réel, un voyage réel, même si ça relève plutôt de l'image mentale. C'est quelque chose de très très réel. La musique est vraiment en train de voyager à travers le cosmos. Love and life,
interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos.
Qu'est-ce que c'est que la cosmogonie? En fait, c'est la vision du monde hein, qu'un ensemble d'êtres humains peut avoir. Sun Ra a construit effectivement sa cosmogonie, inspirée vraiment de l'espace, des étoiles, etc. C'est évidemment une métaphore aussi de la condition des Noirs afro-américains sur Terre.
If you find Earth boring, just the same old same thing, come on, sign up with Outer Space Ways Incorporated. If you find Earth boring, just the same old same thing, come on, sign up with Outer Space.
Sun Ra, né en Alabama, musicien noir de jazz, invente une réalité alternative pour dire qu'il vient d'ailleurs parce qu'il n'a pas les moyens de s'attaquer à ce qui se passe politiquement aux États-Unis dans les années 30, 40, 50.
If you find Earth boring, just the same old same thing, come on, time, up with Outer Space Ways Incorporated.
Donc le cosmos et l'ailleurs sont une manière de signifier que politiquement il peut exister et qu'il a des racines et que ces racines, il est capable à la fois de les exposer, de dire voilà d'où je viens, je suis différent, je suis d'ailleurs. Et vous ne pouvez pas me comprendre, et que vous me compreniez ou pas, voilà ce que je suis. Parfois, moi, quand j'écoute, je me dis, les sons qu'il sort sont vraiment des sons idiots. Mais c'est ça aussi qui est assez beau, parce que finalement, dans toute cette musique-là, tout l'usage des synthétiseurs, c'est extrêmement libre et très très joyeux. D'ailleurs, un des films sur lui porte un titre qui, je trouve, lui va très très bien, c'est Joyful Noise, un son joyeux, du bruit joyeux. Et Sun Ra, c'est vraiment ça, ce côté enfantin et joyeux, et qui fait du bruit.
Avant Sun Ra, d'autres musiciens ont joué avec les sons électroniques dans un esprit enfantin, tel le français Jean-Jacques Perret. Ou aux États-Unis, des compositeurs fantasques tels Bruce Hack, qui profitent de la mode pour tout ce qui est lié à l'espace et inventent une musique décorative, dépaysante, destinée aux chénifies des foyers de l'Amérique moderne à l'heure du cocktail.
Comme le contexte, c'était « Ok, tu fais de la musique pour la stéréo, il faut que tu la fasses avec beaucoup d'aigus et de graves, ou en poussant toutes les limites », alors ils se sont mis à créer quelque chose de totalement inouï, sans même l'avoir vraiment cherché.
À partir des années 50-60, il y a cette espèce de rêve assez innocent de la conquête de l'espace à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sonore, sur le plan visuel, sur le plan scientifique. Et donc il y a cette espèce de rêve du futur où on va au fond se dire qu'après l'an 2000, les voitures vont voler, que les systèmes éducatifs ou sociaux seront parfaits.
Cette époque de progrès qui amène de nouveaux comportements porte un nom, le Space Age. Des orchestres bizarres surgissent de toutes parts, conjuguant un double désir d'évasion en vogue partout, vers les contrées exotiques et vers l'espace. Des laboratoires sonores naissent en parallèle en France ou en Angleterre dans les années 50 pour expérimenter avec les nouvelles machines qui entraînent vers une nouvelle musique et donc vers le futur. Le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer et Pierre Henry se consacrera essentiellement au son terrestre, donnant naissance à la musique concrète.
C'est plutôt l'idée de revenir à des bases, donc par définition au plancher. Schaeffer était aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la radio et en fait sur le message, sur le fait que des millions et maintenant des milliards de